Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, merci d'être avec nous. Si vous êtes là depuis 9h, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre. Ils sont déjà dans ce studio. Eva Rock pour le zapping du lendemain, spécial figure familiale, et Bertrand Chameroy pour son écran de veille. C'est consacré à Grand Hôtel, la série TF1. Notre invité culture, le compositeur Alexandre Desplat, 2 Oscars, 3 Césars et un nouvel album de musique classique. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis, dans les indispensables de la musique, avec une sélection d'albums par Angèle Châtelier et La Figue sous toutes ses coutures avec Laurent Mariotte. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Ça vous fait rire la figue. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour.
C'est l'heure de votre écran de veille, Bertrand. Vos yeux sont cernés, mais oui, votre œil est affûté. Qu'avez-vous regardé hier?
Comment osez-vous me demander cela, Philippe? J'ai regardé TF1 qui lançait hier sa série événement Grand Hôtel. Oui, une saga de l'été diffusée à l'automne. Eva Rock avait donc raison quand elle me disait qu'il n'y a plus de saison, mon petit monsieur, là, avec tout ce qu'il nous envoie dans le ciel en même temps. Bref, Grand Hôtel, c'est un décor magnifique, un casting 4 étoiles et un objectif, rendre hommage à la saga, comme l'expliquait la productrice au journal 20 minutes. Paris réussi, la preuve avec ce personnage qui, en un temps record, parvient à caser tous les clichés qui font une saga.
L'enquête, l'héritage, les dettes, le chagrin...
Il y a tout en une réplique. Autre ambition, toujours selon la productrice, moderniser le genre. Alors certes, dans le premier épisode, on assiste à une douche en trio et ça sniffe de la cocaïne. Oui, sur TF1, mais tous ces efforts de modernisation sont retombés en moins de 10 secondes avec cet enchaînement d'expressions des années 90 tout droit sorti de Terre Indigo.
Elles sont vraiment le sapin, Françoise.
Arrête de péter plus haut que ton cul.
Qu'est-ce qu'il y a ce matin, ma chérie? T'es sur les dents, hein?
Voilà, il manque, hein, t'as fumé la moquette ou quoi? Et on avait le quarté. Autre promesse de la productrice, je cite, des ressorts dramatiques épiques qui accrochent le public. Et là, je peux vous dire qu'on a été servi. Avec un sens de la dramaturgie poussé à l'extrême et une tension. Mais alors une tension, oh, j'en ai encore des frissons.
Tu repasses tes chaussettes, toi?
Bah oui, tout le monde fait ça, non? Non.
Non. C'est vrai qu'en parlant comme ça, on peut tout rendre dramatique. Tu sais ce qu'on mange ce soir?
Non. Non.
Un pot-au-feu. Mais Grand Hôtel, ce sont aussi des dialogues qui feront date, comme celui-ci.
Quand je veux tout oublier, ouais, c'est assez radical.
Vous vouliez oublier quoi, là?
J'ai oublié.
Non, vraiment.
C'était une blague quand j'étais au CM2.
Chapeau aux auteurs. Des auteurs que je soupçonne par ailleurs d'avoir bossé sur les dialogues des séries érotiques d'RTL9 dans le passé.
Je suppose que vous savez comment fonctionne un pass.
Ouais. Faut que je glisse dans la fente, c'est ça?
On va se baigner?
Non, j'aime pas être mouillée.
Ah bon? Ça dépend pas des circonstances.
Et bah alors, ça a changé les sagas familiales. En résumé, Grand Hôtel, c'est ça.
On vend l'hôtel, Margot.
On vend plus. Je reprends l'hôtel.
Non. On reprend l'hôtel.
Voilà, Grand Hôtel, c'est une partie de Monopoly géante avec Carole Bouquet.
Merci, bravo Bertrand Chameroy. Après l'écran de veille, le zapping du lendemain, comme tous les jours avec vous Eva. Un temps d'avance, vous savez déjà quels sont les temps forts, quels seront les temps forts de ce soir. Le thème du jour?
Mon père, ce héros au sourire si doux, comme l'écrivait Victor Hugo dans La Légende des Siècles. Parce que la figure du père, elle apparaît dans 3 documentaires portraits de stars à découvrir sur vos écrans ce soir. Celui de Grace Kelly, pour commencer, c'est sur France 3, présenté par Stéphane Bern. Documentaire nourri d'images inédites de la princesse. Elle a 3 ans, sur les premiers bouts de pellicule retrouvés. Dans sa robe à carreaux, on devine une enfant rêveuse, admirative et très proche de son père. Ce héros, célèbre aux États-Unis bien avant sa fille et pour cause.
3 fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques, ce fils d'Irlandais est le plus grand rameur de son temps. Un businessman aussi. Il a commencé comme apprenti, s'est marié avec une professeure de gymnastique et a fait fortune dans la brique.
Eva, il y a encore des images inédites sur Grace Kelly?
Oui, tout à fait. Elles sont nombreuses. Elles ont été données par la famille. Elles n'avaient jamais été montrées et elles sont formidables. Images inédites donc, et témoignages des amis et de la famille qui rythment ce film de 2 heures qui s'achève par une interview avec le prince Albert depuis le palais de Monaco. Et d'ailleurs, notre deuxième star du soir est née dans la principauté. Mi-français, mi-italien, Léo Ferré détonne un peu dans ce décor de conte de fées. Les journalistes Nathalie Frassoni et Frédéric Bouvier dressent un portrait extrêmement émouvant de l'artiste, décrit comme un homme empli de paradoxes, châtelain et anarchiste, chanteur de cabaret et chef d'orchestre, misogyne et adorateur des femmes. Il parle d'ailleurs avec passion de sa mère. Il évoque son père avec un peu plus de réserve, à l'instar de cette histoire.
Je me trouvais à 10h du soir, place du Casino, devant le Café de Paris. J'avais 22 ans et tout d'un coup, j'ai dansé avec cette fille en lui disant « Tu viens à Monaco comme ça à l'été ?» Elle me dit « Oui ». Je suis congé payé. Et alors, j'entends sur moi quelqu'un qui tape, tap, tap, sur mon épaule comme ça. Je me retourne, c'était mon père qui me regarde, qui me parle pas, qui me fait chut, avec le doigt comme ça, montant la direction de la maison. Et j'ai suivi mon père, j'ai laissé la fille là.
Chaque interview de Léo Ferré est une pépite, c'est un moment de télé à part. Alors difficile quand même d'oublier ses remarques misogynes, mais pour le reste, l'homme se révèle à la fois provocateur et touchant, et on chanterait volontiers avec lui une nouvelle fois cet extra, évidemment. Avant d'entonner, Respect avec Aretha Franklin,
Respect.
Dont le portrait... Respect,
ouais.
Respect, vous préférez
oui.
Dont le portrait est à découvrir sur Arte, une vie débordante de musique dans sa ville de Détroit, dans sa maison, dans les églises où elle accompagne son père, ce héros, le révérend Franklin, figure emblématique aux États-Unis.
Il est impossible de raconter l'histoire d'Aretha Franklin sans parler de celle de son père, C.L. Franklin. Un pasteur de renommée mondiale. Ses sermons étaient si populaires que l'un d'eux est devenu l'enregistrement de sermons le plus vendu de tous les temps. Il était connu comme l'homme à la voix qui valait $1 million.
Et c'est cette éducation et l'influence de son père qui vont la pousser à écrire des chansons plus engagées et plus spirituelles que celles interprétées par les stars du mythique label Motown, la Motown qui espérait lui faire signer un contrat en vain. Ce soir, pour vous, trois stars. Grace Kelly, c'est sur France 3 à 21h05. Léo Ferré, toujours sur France 3 à 23h05. Et la reine de la soul, Aretha Franklin, c'est sur Arte à 22h25.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci beaucoup, Bertrand Chameroy.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Alexandre Desplat.
Bonjour Philippe.
Compositeur de musique de film, déjà deux Oscars, d'abord en 2015, c'était pour Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, puis pour The Shape of Water, titre français, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. J'ajoute trois Césars en France pour De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard, de Rouillé d'Os, et de Ghostwriter de Polanski, près de 200 musiques à votre actif, notamment pour Harry Potter, Twilight ou Godzilla, rien que ça, une image. Mesdames, Messieurs, pour situer le niveau d'Alexandre Desplat à Hollywood, sur le parking de la Warner et le parking de chez Sony, il y a une place de parking avec votre nom. Et là, vous venez pour un nouvel album, il s'appelle Airlines. Petit paradoxe dans ce titre, puisque vous n'avez pas le droit de prendre l'avion. C'est un album qui est classé en catégorie musique classique. Et pourtant, on trouve beaucoup de grands thèmes de vos musiques de films. Expliquez le concept de l'album.
Le concept de l'album, c'est une conversation avec Sol Ré, ma compagne et ma musicienne, ma violoniste avec qui je collabore depuis ma plus tendre jeunesse,
ouais.
Qui a eu cette idée de réunir des musiques de films que j'avais composées, et puis un grand soliste, et la flûte étant mon instrument de prédilection, car j'étais ouais. flûtiste dans une première vie, elle a pensé à Emmanuel Pahut, qui est le plus grand flûtiste vivant peut-être aujourd'hui, qui est un virtuose incroyable, et voilà, et on lui a proposé de participer à cette aventure.
Il a dit oui tout de suite.
Et il a dit oui.
Tout l'album est donc organisé autour de la flûte traversière, vous venez de dire pourquoi. Mais pourquoi avoir fait un album autour de ça? Je veux dire le sens de ma question. Benjamin Biolay, son instrument de base, c'est le trombone. Il ne ferait pas un album avec que du trombone.
Mais Benjamin Biolay est chanteur. Et moi, je suis justement un compositeur de musique instrumentale essentiellement, même si je peux écrire des chansons. J'aime cette idée que la musique est abat les barrières infranchissables des genres. Je vous entendais tout à l'heure dire musique classique. Pour moi, la musique, c'est la musique. Elle n'est pas classique, ou ce n'est pas le jazz, ou les musiques du monde. Toutes ces musiques doivent être transportables ouais. d'un esprit à l'autre.
On va entendre quelques mesures d'Airlines avec la flûte traversière.
Il n'y a pas d'orchestre dans cette pièce, c'est une pièce pour flûte solo.
J'étais en train de parler à mon réalisateur, je voulais lui dire j'attends que l'orchestre démarre, et Alexandre Desplat me dit il n'y a pas d'orchestre, c'est une pièce solo. Avec quel orchestre avez-vous enregistré?
Avec le magnifique Orchestre National de France,
ouais.
À Paris, et grâce à Michel Aurier qui est le directeur de la musique à Radio France, qui avec Sol Ré a construit ce programme et cette idée fantastique d'avoir Emmanuel Pahut et l'orchestre.
Y a des sons qui m'ont beaucoup frappé, par exemple dans le thème d'Elisa, c'est extrait de La Forme de l'eau, parce qu'il y a plusieurs scènes dans un film évidemment, on entend les doigts des instrumentistes sur les touches, et on entend même les souffles et les respirations, c'est quasiment minéral. Si vous avez la chance d'avoir un casque, ou si vous n'avez pas de casque, montez le son, écoutez ça. Et c'est assez impressionnant, c'est une des premières fois, vous semblez séduit par le son.
Mais oui, mais c'est parce que c'est ce mélange de plusieurs flûtes, vous savez, il y a des flûtes de différentes ouais. tailles, donc toutes ces flûtes jouent ensemble, et ce sont des êtres humains qui jouent avec leurs doigts, qui touchent des clés en métal, et donc on ouais. entend ce cliquetis, et puis ils respirent, et donc c'est quelque chose d'organique, la ouais. musique.
Oui, mais parfois on a l'habitude de ce que ça tambourine.
Ah oui, mais non.
Et là, ce qui m'a vraiment plu, c'est d'entendre les souffles, et comme ça, c'est joué, je sais pas comment on dit...
Piano, oui, ouais. piano.
En dessous de piano, il y a quoi?
Pianissimo.
Pianissimo.
Et en dessous, il y a pianissimo.
C'est un orchestre symphonique qui a parfois de l'accordéon, ça c'est pas très orthodoxe.
Non, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette absence de barrière, je veux pas qu'il y ait de barrière entre les musiques. Moi j'ai autant aimé le bandoneon de Dino Saluzzi qui est argentin que James Galway qui était un grand flûtiste à l'orchestre de Berlin. J'aime, et la musique de film permet d'abattre toutes ces barrières et de morpher autant de choses que l'on veut ensemble.
Il y a aussi un passage dans l'album, il y a trois titres, ça s'appelle Péléas et Mélisande, c'est de vous ou c'est signé Debussy? Non, je dis, il faut s'attaquer à un tel monument, il y a une référence. Non, mais... C'est comme si on fait un morceau qui s'appelle La Flûte Enchantée. Waouh!
Oui, wow. Oui bah, j'aurais pu acheter La Flûte Enchantée. En fait.
Non, ça c'est Péléas et Mélisande, ouais. Merci.
C'est une pièce de Maurice Maeterlinck
ouais.
que Debussy a mis en musique après un opéra célèbre. Mais d'autres compositeurs ont aussi écrit sur Péléas et Mélisande parce que c'était un texte qui plaisait beaucoup à Fauré, par exemple. Et donc c'était une commande d'écrire autour de ce thème de Péléas et Mélisande, de cette histoire d'amour.
Ouais.
Et voilà, j'ai là aussi sur les conseils de Solré, j'ai écrit pour flûte et orchestre.
Vous n'êtes pas dit tiens, je m'attaque à un.
Si.
C'est vrai.
Oui, et puis je m'attaquais pour la première fois à une pièce de concert qui serait jouée dans une vraie salle de concert, pas seulement au cinéma.
Vous restez avec nous, Alexandre Desplat.
Allez, d'accord.
On va apprendre plein de choses sur vous. Hélène Manarino qui arrive dans ce studio. On marque une pause, soyez pas inquiets, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Alexandre Desplat nous disait « Je crains le pire ». Je vous présente Hélène Manarino.
Ne craignez
rien.
Je n'ai pas dit « Je crains la pire ».
Non, exactement. Ne craignez rien. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre Desplat.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, ça va être un portrait un petit peu inhabituel. Pourquoi? Avec le portrait inattendu, c'est vrai que je dis tout sur l'invité, Philippe. En tout cas, j'essaye. Ouais. Mais Alexandre Desplat, vous avez une certaine pudeur et une certaine discrétion que vos proches respectent et que nous respectons. Respectons aussi, donc tout ne sera pas dit ce matin. Mais vous me connaissez Philippe, j'ai quelques secrets. Alors Alexandre Desplat, il est à 10h20, 23, où en sommes-nous au niveau du thé?
Ah, alors là je pense que je prendrais bien peut-être un sencha ou un yokuro japonais. Oui.
Est-ce qu'il y a un sacré rituel? Le matin, c'est thé vert. Midi, un autre thé vert. Après le déjeuner, un thé bleu vert. 17h, encore un autre. Et vous vous promenez surtout avec votre kit de thé. Mais surtout, il y a des règles très strictes. Les thés sont pas infusés dans les mêmes théières, ni ils ne peuvent pas être bu dans les mêmes tasses.
Oui, bien sûr.
Nous, on n'a que du Lipton à la machine à café avec un goût d'aspirine.
C'est à quelle heure le Lipton? Et oui, être précis, organisé, finalement, comme vous, finalement, sauf quand il s'agit de votre scooter, puisque en ce moment, vous avez l'habitude de laisser les clés dessus. Donc dès que vous souhaitez le récupérer en fin de journée, il n'y a plus de batterie.
C'est vrai?
Oui, je suis un petit peu distrait, oui.
Expliquez-nous, il est dehors?
Oui, il est, même dans la journée, parfois, j'oublie. Alors je ne vais pas donner l'adresse d'où je laisse mon scooter, qu'on ne me pique pas, mais...
Parce qu'on peut quand même, s'il y a les clés.
Il est 2 rue des Cévennes. Il est tout neuf, allez-y.
Alors Alexandre Desplat, heureusement pour vous remettre un petit peu les idées en place, il y a vos quarts d'heure de sieste que vous faites régulièrement la journée et même la nuit. Vous aimez vous balader.
Attendez, c'est quoi une sieste la nuit?
C'est quoi
la nuit on dort, c'est quoi une sieste la nuit? Hélène,
on fait 20 minutes de sieste et on se réveille. Et puis on se...
La nuit?
Mais la nuit, ah oui. Ça arrive, non? C'est pas mon portrait inattendu.
Si, on a l'impression que c'est le vôtre. On a l'impression que c'est celui d'Hélène. Continuez.
Vous aimez
Hélène,
vous balader aussi au jardin du Luxembourg, chiner de vieux objets comme ces deux publicités que vous avez trouvées, une sur le chocolat et une sur le thé éléphant. Et oui, vous y êtes très attaché. Alors, bosseur, oui, mais attention, quoi qu'il arrive, chaque matin, vous avez toujours accompagné vos enfants à l'école. On parlait de pudeur et de discrétion. Elle s'exprime surtout dans votre travail. Vous ne supportez pas que l'on puisse vous voir travailler, Alexandre Desplat. Vous composez dans des endroits très protégés où il n'y a pas de vis-à-vis, où on n'entend rien. D'ailleurs, votre atelier est dans un sous-sol. Vous êtes comme enterré. Il y a votre musique et vous.
C'est vrai?
Je suis sous un jardin, donc...
une musique très éclectique. Vous avez commencé par jouer du piccolo à la Fanfare des Beaux-Arts et puis vous avez nourri votre curiosité avec toutes sortes de styles et on va voyager ce matin. Alors il y a les chansons italiennes, plus précisément napolitaines, mais à l'âge de 14-15 ans, depuis l'âge de 14-15 ans, vous étiez inspiré par ça. Gilberto Gil, salsa, bossa nova, et puis il y a eu ça. Chant traditionnel grec, rebetiko, palette.
C'est quoi du rebetiko?
C'est le blues grec des années 30.
Et vous écoutez ça?
Bien sûr.
Je me suis toujours demandé qui écoutait ça, à part les Grecs des années 30.
Non, c'est une musique, c'est comme d'écouter du blues en fait, le Robert Johnson ou des bluesmen comme ça. Les musiciens de rebetiko étaient de merveilleux musiciens et il y a une ambiance absolument dingue, c'est fantastique le rebetiko.
Palette très large et il y a également un artiste, on peut le dire, dont vous êtes fan. Tic-tac, tic-tac, tac-a-ti-ta-ki-té, tic-tac,
tic-tac, tac-a-ti-ta-ki-té, tic-tac. Je connais même pas
rien. Va chanter, Philippe Vandel. Tac-a-ta-ka-cuité,
et quitter ton quartier. Tac-a-ti-ké-té, toc. Non, c'est pas là,
c'est juste un
peu. Tac-a-ti-ké-té, toc, voilà.
Le concert d'Alexandre Desplat et Philippe Vandel, très bientôt. On a presque envie de vous entendre chanter du Bobby Lapointe. Alors, vous ne nous dites pas que vous ne savez pas chanter. On va repartir quelques années en arrière. Alexandre Desplat, votre rêve, composer de la musique pour le cinéma, ça s'est fait. Mais avant cela, vous avez connu quelques expériences. Vous avez fait de la musique pour Nulle Part Ailleurs, évidemment. Vos acolytes, Carl Zéro et Albert Algou. Vous faisiez des musiques de parodie, de sketch. Vous chantiez parfois à la place d'Albert Algou.
Non.
Vous composiez les musiques de votre duo incroyable avec Carl Zéro, Chipiron et Adonis. Mais surtout, votre première musique de film date de cette époque, si je vous dis Pipe en bois.
Mais Pipe en bois, non, oui, mais Pipe en bois, ce n'est jamais sorti.
Mais c'est ça.
Ouais,
c'est mais ça, vous aviez composé la musique.
C'était une comédie musicale.
Exactement.
Ouais. C'est dommage, ouais. C'est un bon titre pourtant.
C'était une demande d'Eli Chouraki.
C'est quoi ce titre? Tu m'étonnes que ce soit jamais sorti.
C'était une demande de Eli Chouraki. Vous aviez composé donc toute la musique, comme vous l'avez dit, une comédie musicale. Alors, sacré souvenir, Alexandre Desplat. J'espère en tout cas avoir respecté votre pudeur, celui que l'on nomme l'enchanteur du cinéma. Merci beaucoup de ne pas être pudique avec votre musique.
Merci beaucoup, Alain Ménard. Vous êtes reconnu?
Oui, certains détours. Pour citer Pipe en bois, en fait, c'est à l'époque des sketchs de Carl, ouais. J'avais un ami qui s'appelait Robin Katz, avec qui j'écrivais beaucoup de chansons, dont la chanson Mon bateau. Et j'ai réussi à retrouver cet ami qui vit maintenant aux États-Unis pour écrire les chansons du prochain film de Guillermo del Toro. Donc, finalement, Pipe en bois nous renvoie à ce que je fais en ce moment.
Merci beaucoup, Hélène Manarino. Bon week-end. Merci, Alexandre Desplat. Vous restez avec nous. Tiens, on va écouter Au Bon Bateau tout à l'heure. Dans quelques instants, notre première indispensable, c'est une sélection des sorties d'albums d'aujourd'hui. Ce sera évidemment avec Angèle Châtelier. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie d'Alexandre Desplat, musicien qui vient de sortir un album de musique, même pas qu'on dise classique, mais c'est joué avec un grand orchestre symphonique et ça s'appelle Airlines. Vous parliez de Au Mon Bateau, la fameuse chanson d'Eric Morena dans les années 80, Souvenir, et après on en parle.
Au mon bateau, tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau.
Vous avez perdu tous vos auditeurs?
Non, pas du tout. Angèle est contente, elle commence à bouger. Vous avez fait parole, musique, juste la musique?
Non, musique et parole, Patrick Fieri et Robin Katz.
Voilà, et la musique, c'est vous qui avez fait les petits arrangements de Tempête?
Oui, bien sûr.
Ça a rapporté beaucoup?
Oui, c'est pas mal.
Parce qu'on l'entend
c'est
encore.
Mal. C'est pas mal. Je me souviens qu'une des premières rétributions, j'ai pu m'offrir un grand fauteuil de bureau que j'ai toujours.
Non, mais arrêtez.
Je suis sûr.
Vous avez plus que ça.
Ah, j'ai peut-être acheté une table après.
Mais non, quel menteur. Mais quel menteur. Hier, on recevait Arthur H. qui nous a raconté qu'une publicité qu'il a faite lui a permis de s'acheter un studio.
Ah, mais ça, c'est Arthur H. Il est...
Non, un studio de musique, hein, pas un studio pour chez lui, pour habiter. Oui. Me faites pas croire que cette chanson vous a juste rapporté une table de bureau. Je vous croirais pas. Il y a une tendance dans les films, j'aurais retrouvé la question que j'avais préparée à ce sujet-là, initiée par Scorsese, reprise par Tarantino dans le cinéma américain, utiliser des tubes, des chansons connues de tous, pour les mettre dans un film à la place de la musique. On peut se dire c'est formidable, en même temps, est-ce que c'est une solution de facilité? Est-ce qu'on ne peut pas reprocher ça? Vous en pensez quoi, Alexandre Desplat?
Je crois qu'il n'y a aucun reproche à faire, c'est un choix esthétique. Un metteur en scène peut faire ce qu'il veut, il choisit les acteurs qu'il veut, la musique qu'il veut, s'il veut un compositeur ou pas. Je n'ai pas de... C'est très bien, ça marche très bien. Si on prend une chanson fantastique chantée par Ella Fitzgerald ou je ne sais pas qui, et qu'on la met sur des belles images, ça marche toujours. Il n'y a pas de problème.
Mais j'imagine, je ne sais pas moi, une personne d'un certain âge, le plan il n'est pas super, et là on en voit avec le temps de Léo Ferré, bim, ça, enfin, il y a un côté, les petits ils diraient c'est de la triche.
Un peu.
C'était ça
c'est
le sens de ma question.
C'est un peu,
de la triche, non? Par rapport à vous qui composez Ex Nihilo, oui, et mais qui vous cassez la tête.
Oui, mais encore faut-il que le metteur en scène ait envie de cette relation-là, de cet échange-là. Et s'ils n'en ont pas envie, on ne peut pas les obliger.
Mais dans la chanson, on est porté par les paroles.
Aussi.
Voilà.
Aussi. C'est plus troublant, je trouve, quand dans des films français, j'entends des chansons anglo-saxonnes. Ça me tracasse plus.
Oui, ma préférée, c'était une publicité. C'était Les Nuls qui avaient relevé ça. C'était une pub pour Volkswagen. Et la chanson, c'était un tube de Tok Tok qui était It's a Shame. Et ça veut dire c'est la honte. Et il n'y a que les Français pour faire une pub d'une voiture où on te dit c'est la honte.
Oui, c'est un peu ça. Parfois, j'entends des paroles dans des chansons qu'on entend dans le cinéma français qui n'ont rien à voir avec le film. Donc c'est bon. Mais bon, c'est un détail.
Angèle, oui, avec nous. Philippe. Angèle Châtelier avec vous, c'est musique évidemment. Lundi, c'est Ravioli. Le vendredi, c'est sorti.
C'est ça, et les sorties ne manquent pas en ce moment. Ça a été difficile pour moi, Philippe, de choisir quoi vous présenter, mais vous m'en voudriez quand même de ne pas parler du nouvel album de Julien Doré.
Dis-moi quelque chose.
Aimé, c'est le nom de ce nouvel album de Julien Doré, le nom de sa grand-mère aussi, militante féministe qui a longtemps combattu pour les droits des veuves de mineurs. Alors un album à l'apparence douce et joyeuse, mais plutôt sombre dans l'esprit. On s'en était rendu compte avec son single La Fièvre, où il faisait part un peu de ses inquiétudes face à la crise climatique et dans son titre Kiki aussi.
C'est la peur qui gronde, dis-moi si c'est vrai, qu'on a cassé le monde. On a le dernier ticket, mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé.
Et puis il évoque le deuil, celui qu'il a à faire de son chanteur et ami Christophe. Alors rassurez-vous, il y a de l'humour aussi dans les paroles, du sarcasme et puis de la poésie, comme son duo L'île au lendemain avec la sublime Clara Luciani.
Tout ça ne sert à rien. On a coulé L'île au lendemain. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien.
Julien Doré est quelqu'un de bavard, de philosophe, d'éloquent. Il est constamment en train d'interroger ce qu'il est, pourquoi il le fait, quel impact ça aura. Mais il y a presque 3 ans, il s'est exilé. Fini Paris, retour dans les Cévennes, là où il est né. Alors c'est peut-être l'âge qui l'a rendu plus sage, ou bien la nature. Mais alors pour ce nouvel album, il se sent plus apaisé.
Je ne suis plus du tout habité par des enjeux de réussite ou de... C'est... En fait, ce stress, il est un petit peu indécent dans cette époque. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion qui est suscitée par mes chansons, pas qu'on comprenne tout ce que je suis, tout ce que j'essaie d'être. Enfin, voilà, tout ça, ça m'intéresse moins.
Pourquoi tu me fais la bise? Moi, je voulais t'embrasser. Yeah, yeah, yeah.
Je suis beaucoup plus focus, sans doute aussi parce que j'ai la chance de pouvoir le faire là aujourd'hui avec ce disque-là, de vraiment être porté sur comment je peux faire exister ces chansons sans du tout en faire trop pour les montrer.
De l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là.
Oh là là. Julien Doré donc de retour avec ce nouvel album Aimé avec un E à la fin. On se dit, Angèle, vous disiez qu'il y avait beaucoup de sorties aujourd'hui.
Oui, alors il y a la pop organique de Yael pour ceux qui aiment plutôt la folk. Il y a Bill Callahan, Gad Elmaleh qui reprend Claude Nougaro, si improbable. Mais alors ma petite recommandation bien personnelle, Philippe, pour cette semaine, c'est le nouvel album de Sophie Hunger, souvent comparé à PJ Harvey, un album écrit après une longue tournée, donc avec la solitude qui va avec, et enregistré dans les prestigieux studios Abbey Road, où sont passés avant elle les Beatles, évidemment, Radiohead, les Pink Floyd ou encore Oasis. Alors c'est un disque complexe et délicat, et surtout pour oreilles attentives.
Merci pour cette découverte, Angèle. Donc Julien Doré et Sophie Hunger dans les sorties de la semaine. Alexandre Desplat écoutait avec un air très concentré. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a séduit ou pas?
J'ai retenu les marimbas dans les arrangements de Julien Doré. Oui. Et puis Abbey Road, puisque j'enregistre en ce moment à Abbey Road, donc par vidéoconférence.
Rien que ça, voilà, il faut le dire. Abbey Road, c'est là, c'est le studio où vers lequel les Beatles marchent, la fameuse pochette. Merci beaucoup, Angèle.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie d'Alexandre Desplat, je vous présente Laurent Mariotte, que vous connaissez peut-être. Bonjour Laurent.
Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde.
Chaque vendredi, Laurent, ici, éveille nos papilles. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un fruit de saison.
Bah oui, un fruit magnifique. Regardez comme elle est belle, déjà avec sa belle robe. C'est la figue. Alors ça, c'est la figue de Solies, si on va en parler. Il y a plusieurs variétés. Elle est pourpre, elle est violette intense. Et je vais vous faire un aveu. C'est pour moi le fruit défendu, la figue. On parle de la pomme, mais dans les anciens écrits, on disait pomum. En latin, ça veut dire le fruit pomum. Mais dans le bassin méditerranéen, il y avait plus de figues que de pommes. Et c'est vrai qu'elle est tellement sensuelle. Elle est croquante à l'intérieur. En plus, pour l'Église, il y a un petit côté érotique qui lui rend ce côté défendu doublement. Donc pour moi, c'est vraiment le fruit défendu.
Et en portugais, c'est le nom du sexe féminin, la figue, dans l'argot portugais.
On peut lui prêter, ça ressemble à un joli sein aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses.
Vous aimez les figues, Alexandre Desplat?
C'est mon fruit préféré.
C'est pas vrai?
Oui, avec la mangue, j'ai deux fruits préférés. La mangue et la figue.
On aurait voulu préparer ça, qu'on n'y serait pas arrivé.
Eh oui, vous avez des mangues ou pas?
Non.
Là c'est compliqué. Là on essaie d'être sur le fruit local quand même, parce que des figues on en trouve partout en France. Donc il y a de la noire de Caron, de Provence, qui a une forme allongée. Ça, la verte claire, regardez.
Je peux goûter?
Mais allez-y, goûtez, ouvrez même.
Alors attendez, il y a le petit. J'ai appris un mot grâce à vous la semaine dernière, je l'ai déjà oublié.
La pruine.
La pruine, c'est l'espèce de petite poussière. Il faut l'enlever, pas l'enlever? Est-ce qu'on
non,
la garde
pas
ou la garde pas?
C'est un signe de fraîcheur, au contraire. Ça veut dire qu'elle a pas fait des jours et des jours de chambre froide. Donc il y a la noire de Caron, il y a la dauphine qui est verte claire, celle-ci qu'on trouve en France et en Espagne également, qui a une chair rose à l'intérieur. Et puis la figue de Solies, qui est la seule figue à bénéficier d'une appellation d'origine protégée, qui est cette belle figue ronde aplatie. C'est pour ça qu'elle est très, très spécifique.
Ça se garde combien de temps?
Ça se garde...
C'est un fruit de saison.
L'idéal, c'est de la manger comme les fraises, juste après l'avoir achetée. Sinon, on la garde à température ambiante 2-3 jours, mais le risque, c'est qu'elle se dessèche. En revanche, si on la met au frigo, elle va perdre son goût et son arôme, donc il faut vraiment la laisser à température ambiante plutôt que le frigo.
Et alors, ce qui est intéressant,
pardon, il y a deux écoles. Là, vous mangez avec la peau, mais on peut manger avec ou sans la peau. C'est vraiment deux écoles.
Il y a exactement deux écoles, oui. Moi, je suis avec la peau aussi. Mais c'est vrai que beaucoup de gens les épluchent, effectivement.
Ouais, moi, j'épluche.
Moi, je suis avec la peau quand c'est bon et sans la peau quand c'est mauvais.
En tout cas, il ne faut pas la passer sous l'eau parce que, pareil, ça va enlever son goût. Donc, on l'essuie à ce moment-là avec un essuie-tout humide. Non,
alors, vous les mangez comment, vous, Alexandre Desplat?
Comme la
salé,
banane,
comme sucré, comme la banane.
Comme la banane ou l'orange, j'épluche.
D'accord. Mais ensuite, en salé, en sucré, simplement en fruits?
Avec du jambon, avec... avec
carpaccio de bœuf.
Bien sûr,
avec un beau carpaccio de bœuf. Vous allez chez le boucher aujourd'hui ou ce week-end, un joli carpaccio
de bœuf.
Avec
une tome de brebis.
Une tome de brebis, ça supporte très bien les mariages. Avec la burrata.
Un chèvre frais.
L'accord figue burrata ou chèvre frais, c'est magnifique.
Vous êtes tellement intéressant, je vais me casser, moi. Continuez l'émission sans moi.
Non,
faites un joli carpaccio avec des figues et puis une vinaigrette avec de la sauce soja qui va venir apporter un petit côté asiatique comme ça, équilibrer la viande de bœuf et la figue qui s'entendent très bien. Et on peut râper aussi quelques champignons de Paris comme ça. À cru, ça marche très très bien. Voilà pour le salé.
Et en salé et en sucré?
Alors en sucré, on peut faire plein de choses. Moi, j'aime bien les inciser en quatre dans la hauteur, mais pas jusqu'au bout. Et vous allez les mettre dans un joli plat à gratin. Et à l'intérieur, vous mettez de la ricotta. On revient à un fromage frais qu'on va mettre à l'intérieur. Et on met des zestes d'orange dans cette ricotta. Du miel par-dessus. Même un chouïa d'huile d'olive. Parce que même dans les desserts, l'huile d'olive, elle va apporter une rondeur et une petite note fruitée comme ça qui sera très intéressante. Du miel, du romarin, 15 minutes au four. Et vous les servez tièdes comme ça, c'est fini. figue comté, incisée, généreuse, avec cette chair rouge et croquante à l'intérieur. C'est un joli dessert, ça.
Ça dure combien de temps, la figue, la saison de la figue?
Alors, on en a jusqu'à aller fin octobre, grand maximum. Hein, parce qu'elles peuvent donner deux fois. Certaines variétés donnent deux fois par an. Elles ont donné en juillet, elles redonnent en septembre-octobre.
Merci beaucoup, Laurent Mariotte. On vous entend quand sur Europe 1 la prochaine
demain,
fois?
Demain, à 11h, voilà. Une spéciale goûter parce que c'est la rentrée. Et puis, nous aurons un invité qui est une grande gueule, mais qui est aussi une fine gueule. C'est Joëstar qui va se mettre à la table des bons vivants demain à 11h.
Il va arriver avec ses bouteilles de rhum.
Il va venir avec ses bouteilles de rhum parce qu'il connaît très très bien le rhum. Pas que le baba au rhum, mais le rhum tout court, parce qu'il a fait une série documentaire sur le rhum.
Extraordinaire, ouais. Il était venu nous en parler de cette série. C'était juste complètement dingue. Il a même failli tomber dans la cuve. Merci
exactement,
beaucoup,
la
Laurent.
Tête dans le fût.
Bon week-end, bonne émission. Vous restez avec nous, Alexandre
Desplat. Attention à la prise de poids avec la fille, quand même.
Oui, c'est vrai, c'est calorique.
Hein. Vous dites ça pour moi, je la repose. C'était ma deuxième, ouais. J'arrête. J'ai bien
manger,
compris.
Bouger, ça
j'ai
va.
Bien voilà, compris le message sous-jacent. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Airline, c'est le titre du nouvel album d'Alexandre Desplat avec Emmanuel Pahut à la flûte traversière, album composé autour de la flûte, de morceaux qu'on a déjà entendus, de pièces qu'on a déjà entendues dans les musiques de films que vous avez faites. Sur quoi travaillez-vous actuellement, Alexandre Desplat?
À l'heure où nous parlons, j'enregistre avec le London Symphony à Abbey Road en visioconférence, parce que la situation est telle qu'il faut le faire à distance. Pour le nouveau film de George Clooney. Donc hier et aujourd'hui, nous sommes, toute la semaine, nous sommes en visioconférence et en son direct.
Voilà. J'ignorais complètement, on peut diriger un orchestre depuis, on ne fait pas les mouvements ou
non
si...
Malheureusement, je ne peux pas le diriger physiquement. Donc il y a quelqu'un qui est sur le podium à ma place, devant l'orchestre. Mm-hmm. Mais les indications avec Solré, qui est avec moi, la musicienne avec laquelle je vis et travaille depuis toujours, nous donnons les indications artistiques, mm-hmm. de direction. Et voilà, c'est assez impressionnant de pouvoir le faire comme ça.
Et le son, ça sonne comment? C'est pas trop dénaturé
pas
avec
tout.
La distance?
Non, parce
que vous entendez vous-même.
Non, une connexion internet en béton qui vient d'Abbey Road et qui arrive chez moi sur des très bonnes enceintes. Donc non, c'est très bien. Alors c'est très frustrant pour moi qui aime être avec les musiciens dans le studio, pouvoir m'adresser à eux directement par mes gestes et par mes mots, mais il n'y a pas le choix. Donc voilà. Mais c'est ce que je fais. En ce moment.
Habituellement, vous partagez entre la France et les États-Unis. Mm-hmm. Et là, vous êtes, si j'ose dire, assigné à résidence. Vous n'avez pas le droit d'aller aux États-Unis?
Non, pas pour l'instant. Non.
Pour quelle raison?
Covid-19, c'est un truc qui vient de sortir.
Il y a des vols, mais on n'a pas le droit de les prendre. Ou est-ce que vous n'avez de toute façon pas le droit d'y aller?
Je ne peux pas y aller. Je pourrais pas y aller. Si j'y vais, je ne pourrais pas aller en studio. Je peux pas y aller.
Parce que vous n'avez pas les papiers.
Je ne suis pas américain.
Donc il faut un visa.
Même si j'ai un visa, je ne pourrais pas y accéder.
Il y a eu la crise du Covid. Beaucoup de films, on le sait, n'ont pas pu sortir. Le prochain film de Wes Anderson, c'est vous qui avez fait la musique?
Oui, absolument.
Ça s'appelle The French Dispatch. Ça devait sortir au mois d'août. Finalement, il est reporté au 14 octobre. Je voulais que vous nous en parliez. Je veux dire pourquoi? Parce que vous avez dit au magazine Première, j'ai vu la version finale. C'est tout simplement dingue. Racontez.
Quand j'ai lu le script de ce film que Wes m'avait envoyé, je lui ai dit que c'était un film dada.
Comme les dadaïstes.
Voilà, dadaïste. C'est un. Je crois que c'est le film le plus fou et qu'il est écrit et qu'il est réalisé. On retrouve les techniques de mise en scène de Wes avec ses mouvements de caméra, son découpage. Et la musique vient, je crois, jouer avec ça aussi.
Elle est dadaïste aussi.
Elle aussi, oui.
Alors je dis, pour qui ne connaîtrait pas, Dada, c'est le mouvement qui préfigurait, qui était juste avant les surréalistes. Fondé par Tristan Tzara, si je me souviens bien,
exactement.
À Zurich. Plus de 200 partitions, c'est ça?
Oui, peut-être. Oui.
Si on fait le calcul, 6 ou 7 musiques par an, une tous les deux mois, où est-ce que vous trouvez l'inspiration et les idées?
Le film et l'histoire qu'on me propose de mettre en musique.
En fait, je veux dire pourquoi je vous pose cette question, parce que vous avez un truc à Télérama qui m'a tellement étonné. Vous avez dit, l'inspiration, ça n'existe pas.
Oui, je pense qu'elle n'existe pas. Je pense que c'est une accumulation de choses que vous avez aimées,
ouais.
Pratiquées. Et qui se cristallise à un moment parce que vous, je travaille pour un art appliqué, la musique de film, c'est au service d'une œuvre collective. Donc j'ai cette œuvre collective devant moi et je viens m'insérer comme ça avec délicatesse dans cet objet.
Vous avez fait quoi cet été? Je dis ça parce que vous détestez les vacances.
Eh bien cet été, je déteste pas les vacances, mais j'aime bien travailler. J'ai composé la musique du film de George Clooney tout en allant régulièrement chaque jour me baigner dans la mer Méditerranée.
Dernière question, une image qui a frappé en France. Quand vous avez reçu votre premier Oscar, vous êtes monté sur scène. Vous avez remercié le réalisateur, les producteurs, votre épouse et vos chats. Pourquoi les chats, je suis sérieux, en quoi vous ont-ils aidé?
Non, non, mais c'était une traduction ratée.
Ah mince.
Non, c'est, je n'ai pas remercié ni mes chats, ni ma grand-mère, comme le traducteur l'a dit. Je remerciais my Greek mother, ma mère grecque,
ouais.
Et mon ami Katz, dont c'est le nom que j'ai dit. Mon ami Katz, que je citais tout à l'heure, qui était le co-writer des paroles
j'ai
de Homo Bato. Voilà.
Voilà.
Et le traducteur n'a pas bien compris. Voilà. Donc je remerciais mes chats. Voilà. J'étais complètement débile. Donc.
Imaginez si c'était appelé Dogs. Merci beaucoup, Alexandre voilà. Desplat. Deux Oscars, trois Césars. Ce qu'on entend, c'est la flûte solo d'Airlines.
Un appel que j'ai composé sur les collines de mon île grecque.
Merci d'avoir été avec nous voilà. dans cette émission en direct. Merci à tous. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. Il y aura Mickaël Lumière et Pierre Lemarchal pour un biopic bouleversant sur le parcours de Grégory Lemarchal. Faut-il le rappeler, il était le vainqueur de la saison 4 de Star Academy. Et puis, le comédien Hippolyte Girardot pour le film La Daronne avec Isabelle Huppert. Isabelle Huppert dans un rôle de dealeuse, un film européen. Juste après le flash, c'est pas une dealeuse, c'est Anne Romanoff. Mais elle deal du sourire, ça s'appelle Ça fait du bien. Et je vous dis merci à toutes et tous. À lundi.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.